Alors, donc, mon idée, c'était de continuer du coup par la vigne. Alors, sous un triple angle, d'abord un peu l'objet. L'objet, c'est-à-dire sa rédaction, enfin, donc, ensuite ce qu'il raconte, et puis troisième chose, comment ça a été interprété. Donc, et avec l'interprétation, on retombera un peu sur l'interprétation patristique. Hein, ça, du coup, ça fera. Oui, on retombera, sans avoir le cours de patristique que j'ai fait l'an dernier à Courtanin, où je faisais une lecture, enfin plus exactement comment les pères lisaient la Bible, parce que ça aurait fait pour vous trop de redites. Il y aura quand même une partie, enfin le noyau de la lecture patristique de la Bible, qui est quand même la grande le modèle de l'interprétation. Voilà.
Est-ce qu'on inclura les médiévaux?
Oui, les médiévaux, parce que les médiévaux finalement continuent sur la
Oui,
ligne
c'est
des
ça.
pères. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, jusqu'au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, quand on parlait des pères, oui, XVIIe, on incluait les médiévaux en fait. Hein. Oui, c'est à peu près au XVIIe siècle qu'on a commencé à faire on dirait l'Antiquité, le Moyen-Âge, tout ça, et puis les temps modernes. À l'époque.
Saint Thomas était considéré comme un père.
Oui, comme Saint Bernard, etc. Saint Bernard, on l'a souvent cité comme père. Alors que maintenant, depuis le XVIIe siècle, on dit, pour les derniers pères, on a vu Isidore de Séville, qui est le compilateur qui est un petit peu celui qui va clore l'Occident latin. Après, on a des écrivains monastiques, surtout, qui écrivent pour leur communauté. Et avant que ça acquiert une notoriété, il faudra attendre un petit peu l'époque de Charlemagne. Et on a déjà la mentalité médiévale, comme faisait remarquer un jésuite italien. On passe de la Méditerranée à la mer du Nord, en gros, avec le Moyen Âge. C'est-à-dire qu'en fait, disons, le leadership passe au pays germanique, et du coup avec une autre mentalité que celle des pays méditerranéens. C'est vrai que les théologiens qui vont compter dès le Haut Moyen Âge vont être déjà des Germains christianisés qui n'ont pas du tout la même mentalité que les Latins. Et puis en Orient, là, ils suivent leur voie singulière, hein, parce que là, franchement, dès le XIe siècle, il y a enfin même avant d'ailleurs, il y a une rupture qui est vraiment culturelle. Et là aussi, avant toute une floraison de grands auteurs comme Nicolas Cabasillas et voilà des auteurs de ce genre, eh bien, ils auront une autre mentalité que les pères qui étaient encore tournés vers la Rome indivise presque. Hein. Donc c'est un autre, c'est le Moyen Âge byzantin sera complètement différent du Moyen Âge occidental, mais on peut dire que c'est plus non plus l'époque patristique des Byzantins, c'est une autre époque. Beaucoup plus marqué aussi vers la vie monastique, parce que finalement, avec la pression musulmane, etc., la vie spirituelle, finalement, s'était repliée dans les monastères, un peu comme en Occident, tout compte fait, mais pour d'autres raisons, donc ça devient une littérature plus monastique. Donc, c'est une autre période. Et alors, donc, le dernier père qui va un petit peu mettre la fin qui va être la coda du temps du monde patristique, c'est en Orient, c'est Saint Jean Damasène, comme on dit, Saint Jean de Damas. Alors, vous voyez, Damas, c'est une ville à la fois très actuelle et une des plus anciennes villes du monde. Hein. Alors, comme toujours, on ne sait jamais trop quand il est né. Alors, il est né plus ou moins en 650. Et alors, il mourrait en 750. Donc, voilà quelqu'un qui a une longévité impressionnante. 100 ans. Ouais, environ. Et ben là, qui est mort à 100 ans il n'y a pas longtemps?
Oui.
Je parle des résistants.
Plein de gens. Oui, récemment, j'ai vu quelqu'un qui est mort à 100 ans. Mais sinon, j'ai vu un de mes professeurs de la Grégorienne qui est mort à 97 ans. Jésuite. Xavier Tilliet. Ah ben, il est mort le même jour que Robert Spemann, qui est un philosophe allemand qui avait travaillé des choses en français. Et Xavier Tilliet est un jésuite français qui a enseigné la théologie, la philosophie idéaliste allemande. Donc c'est amusant. Ils sont morts le même jour. Et quasiment au même âge, parce que Spemann est un, je crois, contemporain de Ratzinger. Je crois qu'il est né en 27. Et puis Tilliet, il est mort à 97 ans, donc il est dû naître en 22, alors un truc comme ça, ou 21, je ne sais plus. Alors, notre Saint-Jean de Damas, lui, il est mort, presque à 100 ans, et il naît dans une famille arabe-chrétienne, comme il y en a encore aujourd'hui à Damas. Hein. Alors, ses aïeux, son père et son grand-père avaient servi le calife. Et oui, parce que déjà, du temps de son père et de son grand-père, la conquête... Vous savez, les Arabes sont rentrés dans ces régions de l'Empire comme dans du beurre. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Et du beurre en été, hein, pas du beurre en hiver. Vous savez que le patriarche d'Alexandrie avait dit mieux vaut le turban que la. Oui, voilà, que la. Oui. Mieux vaut le turban que la mitre. Oui, c'est ça. Mais Alexandrie, hein, déjà, donc autrement dit, tout ça pour une raison qui est assez proche de ce que la couleur que vous avez là.
Hein. C'est les gilets jaunes.
C'est en fait la fiscalité épouvantable, la pression fiscale de l'Empire byzantin, qui était devenue une bureaucratie corrompue, et ça avait finalement détaché tous les peuples de l'Empire de leur loyauté, parce qu'ils en avaient marre de payer les impôts. Et donc ils se sont rendus au premier envahisseur venu, qui a évidemment, je pense pas qu'ils étaient vraiment gagnants, hein, mais bon, mais en tout cas ils en avaient assez de payer pour Byzance. Et alors donc le père et le grand-père de Saint-Jean ont été donc des administrateurs des finances des califes, hein, qui s'installaient et qui probablement ne devaient pas être des administrateurs très avisés à cette époque. Hein, ils devaient sortir de leur désert. Donc, du fait de ces antécédents familiaux, Jean de Damas, évidemment, va bénéficier d'une solide formation classique, grecque évidemment, et il va assumer des hautes fonctions dans l'administration syrienne, sous domination omeyyade. Mais la tolérance des nouveaux envahisseurs ne va pas durer, elle durera juste le temps qu'il faudra pour profiter de toute la haute administration byzantine, avant qu'eux-mêmes acquièrent les méthodes, et à ce moment n'aient plus besoin de ménager en quelque sorte les chrétiens qui savaient tout faire à l'époque. Hein. Ils étaient administrateurs, militaires, architectes, etc. Les plus grandes constructions musulmanes, elles ont été faites par des architectes byzantins en fait. Hein. Oui, parce que en fait, c'était les seuls à savoir construire des trucs. Hein. Les Arabes savaient construire que des tentes, hein, dans le désert. Bon. Donc il a fallu pendant quelque temps que ils se sont servis donc de la science byzantine et alors au bout d'un certain temps, ils apprennent, c'est comme les Chinois avec les Occidentaux, donc ils apprennent des techniques, et puis du coup ils vont beaucoup moins être tolérants vis-à-vis des chrétiens, notamment ils vont les soumettre à la capitation. Autrement dit, à l'impôt, vous savez, discriminant, là. Et d'ailleurs, capitation, et si pas capitation, décapitation, hein, probablement. Donc, ce qui fait que beaucoup, d'ailleurs, de ces familles chrétiennes immigreront dans les zones encore tenues par l'Empire. Voilà. Alors Jean de Damas, lui, il va donner sa démission au moment où les discriminations contre les chrétiens se généralisent. Donc, il donne sa démission et puis il va se retirer dans un monastère, le monastère de Saint Sabas, près de Jérusalem, qui est vraiment le grand monastère de la région. Et là, il sera ordonné. Prêtre par donc assez tardivement donc vers 710 par là, il sera ordonné donc tardivement prêtre par le patriarche de Jérusalem, et puis il passera sa vie à écrire et à compiler, parce que vous voyez toutes ces phases de Les phases de crise sont toujours des phases de cristallisation, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire, quand on a le sentiment qu'on risque de tout perdre à cause d'invasion, de perte de transmission, etc., on se précipite pour écrire, pour laisser une trace à qui pourra ensuite les lire. Parce qu'on a conscience qu'on n'a plus la communauté suffisante pour la transmission orale, etc. Donc, on se précipite pour mettre par écrit la culture qui est autrement été la culture ambiante. Donc, il va compiler, et puis il va être aussi mêlé à la dernière phase de la querelle des images, donc de la querelle iconoclaste. Et lui, il va prendre la défense des images. Il va le faire d'autant plus facilement que désormais la Syrie, n'étant plus sous la coupe de l'Empire, eh bien, l'empereur a beau interdire les images là où il règne, mais comme il règne plus dans un certain nombre de territoires chrétiens qui sont passés sous la coupe des Arabes, eh bien, donc voilà, son autorité ne va pas plus loin. Donc, Jean de Damas va défendre d'ailleurs, sous un régime religieux qui est encore plus iconoclaste que celui des mais bon, je pense qu'à cette époque-là, les Arabes ne mettaient pas trop le nez dans les affaires des chrétiens, dans les affaires théologiques des chrétiens. Donc, enfin, les Arabes, je veux dire, les musulmans. Et donc, il a pu participer à ce débat, à cette défense. Lui-même sera condamné par des synodes iconoclastes, parce que ses écrits, évidemment, écrits en grec, vont être connus dans l'Empire. Il sera condamné. Et il sera réhabilité par le concile de Nicée II, enfin le deuxième concile de Nicée, 787, qui est la consécration de l'iconophilie, enfin je peux comment on dit, le culte des images. Alors, on verra que sa position est une position qui est équilibrée. Alors, son ouvrage le plus important est « La source de la connaissance » en trois livres sur la philosophie. C'est une compilation d'ouvrages philosophiques. Sur les hérésies, c'est aussi une compilation sur les hérésies, avec un exposé de la foi et qui est peut-être une de ses œuvres. Alors justement, la plus connue, c'est le De Fide Orthodoxa, qui est l'exposé de la foi chrétienne, enfin une sorte de catéchisme en quelque sorte, qui va opposer aux hérésies et aux philosophes aussi. Donc le De Fide Orthodoxa, qui est l'ouvrage souvent le plus cité de Saint Jean de Damas. Alors il a écrit aussi des hymnes. Vous savez que dans le monde oriental, et en particulier syrien, il y a beaucoup d'écrits poétiques, enfin notamment donc des hymnes liturgiques. Et puis on a aussi des sermons de lui, assez nombreux. Et alors, comme il participe à la controverse iconoclaste, on a plusieurs ouvrages de lui sur la question, trois discours sur les images, où il entre en lice contre l'iconoclasme, hein, donc, qui était devenue la doctrine officielle de l'Empire byzantin. Ça date des années 730-740 à peu près. Alors, vous vous souvenez que Léon III l'Isaurien, qui était un des grands empereurs byzantins, avait déclaré idolâtrique la vénération des images. Pourquoi? Parce qu'elle était souvent superstitieuse. Hein. Je vous avais raconté là qu'on grattait les icônes et qu'on mélangeait ça avec le vin consacré du calice, et enfin des choses comme ça. Il y avait véritablement presque une idolâtrie, hein. Enfin, on peut dire idolâtrie, oui, c'est le cas de le dire. Et alors, Saint Jean va distinguer les images personnelles, les images qui préparent la réalité et les images qui imitent la réalité. Alors il dit, le Fils de Dieu est l'image du Père. Vous avez ça dans le début de l'Épître aux Hébreux. Et l'homme est à l'image de l'image, hein, puisque l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le prototype de l'humanité, c'est le Christ. Donc l'homme est à l'image de l'image, si on peut dire. Cette image, on pourrait dire, archétypique de l'homme, elle est préparée dans l'Ancien Testament par des figures. En grec, c'est prototypos, c'est l'image primordiale, c'est-à-dire le Christ devant s'incarner. Et puis les images qui sont comme les préparations, ce sont les antitupoi, hein, les antitypes, qui sont toutes les figures vétérotestamentaires qui annoncent le Christ, aussi bien des personnages que des symboles, en fait, hein, comme par exemple l'agneau, le rocher, mais David, le serviteur souffrant. Enfin, tout ça, ce sont des images qui sont préparatoires pour reconnaître l'image de Dieu qui nous est donnée et qui est en même temps le modèle de ce que nous avons à devenir. Hein, c'est ça. Donc ça, c'est les images préparatoires. Puis après, il dit, il y a les images qui vont être, qui vont imiter l'image qui nous a été donnée, puisque l'image qui nous a été donnée, elle nous a été donnée pour un temps. Après l'ascension, le Christ dans son humanité disparaît. L'image se poursuit dans la sacramentalité de l'Église par les sacrements, justement, où tous ensemble nous formons l'image du Christ, et en même temps cette image, elle nous est donnée aussi sous une forme sacramentelle, par exemple dans l'Eucharistie, où on a vraiment l'image de Dieu, c'est-à-dire le Christ, mais sous une forme encore d'image qui correspond déjà à des images préparatoires, puisque par exemple la manne anticipe ce que sera l'Eucharistie. Ce qui fait le lien entre les deux, c'est le Christ lui-même, en fait, hein.